L'invité du jour.
Le 3 novembre, les Américains se sont rendus aux urnes pour élire le nouveau président des États-Unis. À l'heure actuelle, on ne connaît toujours pas le nom de la personne qui dirigera le pays à partir du 20 janvier. Une situation qui est difficile à comprendre ici en France, mais pour nous en parler, je suis avec Alicia, une Américaine qui vit dans le Trégor depuis un petit moment déjà, mais qui a voté par correspondance. Bonjour Alicia.
Bonjour, adieu.
Bon, alors, Alicia, tu vas tout nous expliquer comment ça se passe aux États-Unis. Ce qui est important, c'est que donc on peut voter par correspondance, mais les bulletins ne sont pas dépouillés tout de suite, si j'ai bien compris.
Alors, ça dépend. En fait, la vote par correspondance, et en général, les systèmes de vote sont organisés par État.
D'accord.
Donc, moi qui viens du Texas, ça va être organisé autrement que quelqu'un qui vient de l'État à côté.
D'accord.
Ou d'un État ailleurs dans le pays. Globalement, la majorité des États permettent le dépouillage ou dépouillement, comme
oui.
On dit.
Dépouillement.
Le dépouillement des votes par correspondance en amont. C'est tout le principe des early voting ou le vote par correspondance dans mon cas, qui permet de compter en amont pour ne pas avoir du retard. Après, il y a certains États pour ne pas influencer le vote en présentiel qui ne permettent pas le dépouillement en amont. Donc c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on a quelques États qui ont pris très longtemps, plusieurs jours, à compter leur vote et qui sont toujours discutés ou disputés à cette heure-ci.
Parce que toi, du coup, tu as envoyé ton vote là-bas, donc c'est par la poste, c'est ça?
C'est ça. Alors, moi, du Texas, on peut demander notre bulletin de vote par Internet, mais
d'accord,
on doit le retourner obligatoirement en version originale papier, avec un suivi courrier par la poste. Alors que d'autres États, on peut le rendre par fax ou par email.
Ah oui, donc chaque État a un petit peu sa façon de procéder, quoi.
C'est ça. Comme c'est chaque État qui s'occupe du dépouillement, du comptage, eux, ils décident comment ils reçoivent les bulletins.
Et alors, donc, toi, tu as voté quand exactement?
Alors, moi, j'ai demandé mon bulletin au mois de septembre. Je l'ai reçu début novembre parce qu'il y avait eu des retards.
D'accord.
Normalement, c'est assez rapide. Ça peut être dans la semaine qu'on reçoit le bulletin par email. Et puis, je l'ai envoyé dans la foulée. Donc, je l'ai envoyé avant la date officielle de vote aux États-Unis, le 3
ouais.
novembre. Et comme je suis à l'étranger, je peux envoyer mon bulletin. Il doit être reçu jusqu'à 8 jours après la
c'est
date
ça.
Officielle
ouais.
de vote. Donc, c'est-à-dire à début de la semaine prochaine, s'ils reçoivent mon bulletin, ça sera toujours compté dedans. Et imaginons s'il y a beaucoup de votes par correspondance qui arrivent en retard, ça peut avoir une influence. Normalement... pas autant que ça.
Et comment tu sais que ton bulletin est bien arrivé?
Alors moi j'ai pris l'option lettre suivie par la poste, mais
d'accord.
il y a aussi un moyen de suivi une fois réceptionné par les services aux États-Unis
ouais.
dans mon État, parce que pareil c'est un suivi par chaque État, ils définissent comment ils font ça. Le Texas, ils mettent en ligne un suivi du bulletin une fois, ils vont accuser réception et puis est-ce que c'est en train d'être pris en compte, etc. Donc moi je peux, actuellement il est toujours en cours de transit, donc je suis sur la poste. Mais une fois reçu, je pourrais savoir où en est le prise en compte de mon bulletin par les services
d'accord.
de vote.
Alors donc pour l'instant, ton bulletin n'est pas encore pris en vote, n'est pas encore
non.
pris en compte.
Tout à fait.
D'accord. Alors en plus, c'est compliqué le dépouillement là-bas parce que c'est pas un bulletin avec marqué Trump et un autre avec Biden. Il y a beaucoup de choses sur le bulletin. Hein.
Oui, tout à fait. En fait, là, on parle en France de l'élection présidentielle.
Mmh.
C'est bien sûr l'élection nationale la plus importante, mais en même temps, il y a l'élection aussi des sénateurs, des représentants, donc les politiciens qui composent notre Congrès. Et aussi, il peut y avoir au niveau étatique, donc au niveau de l'État, au niveau de notre comté, qui est comme notre région ou département, des élections en plus. Moi, personnellement, j'avais à voter pour le président, le vice-président,
ouais.
comme tout le monde au pays, et en plus, un sénateur et un congressman, donc représentant de la maison.
D'accord, parce qu'on vote aussi.
D'autres fois, je crois il y a 4 ans, j'avais à élire aussi mon shérif, par exemple.
Ah oui, d'accord. Et donc, il y a plusieurs élections aux États-Unis où tout se fait tous les 4 ans?
Il y a plusieurs élections au Congrès, donc c'est plutôt tous les 6 ans. Et donc, il y aura certains... Ça dépend de son État, de sa région. Parfois, ça va tomber en même temps que le président et le vice-président. Et parfois, c'est d'autres élections sur d'autres années. Il faut s'enregistrer pour le vote à chaque année pour pouvoir participer à toutes ces élections.
Alors, aux États-Unis, il n'y a pas de ministre d'Intérieur qui va annoncer les résultats de cette présidentielle. Ce sont les télés qui vont s'en charger.
C'est ça. En fait, il y aura des porte-paroles de chaque État qui, après le dépouillement de l'État, vont annoncer, ou vont annoncer même au fur et à mesure du dépouillement, les tendances des votes. On est à 80%, ça tombe dans ce sens ou dans ce sens. Et à la fin du dépouillement, ils vont annoncer le gagnant de l'État, qui ensuite est diffusé par les médias divers et inclus dans le compte de tout le pays pour savoir qui est-ce qui a gagné au niveau national.
Alors les télés ont de la pression, hein, on l'a vu sur les images. Il y avait les fans de Trump qui hurlaient contre Fox News, une chaîne pourtant qui est pro-Trump. Imagine mal en France les fans de Macron ou un autre candidat aller manifester devant TF1 ou une autre chaîne télé.
Oui, c'est assez étonnant. Tout à fait. Vous l'avez résumé, tu l'as bien résumé, Mathieu, parce que Fox News est réputé comme la chaîne de la droite ou de Trump, qui est un peu sa chaîne marionnette, parce qu'il donne plutôt des avis et des informations favorables à l'administration actuelle. Et du coup, si les supporters de Trump sont allés manifester contre Fox News, c'est parce que, pour une fois, ils racontent que la réalité, que les faits, si Trump a perdu tel État, il a perdu. Et le problème, c'est que Fox News l'a annoncé avant d'autres chaînes télé.
C'est
donc
ça.
Alors qu'il est censé être pour Trump, avant que tous les autres, ils ont dit, Trump a perdu tel État. Ce qui peut faire que Trump a perdu toute l'élection. Et les supporters, ils n'étaient pas d'accord.
Alors, autre chose incompréhensible, devant les bureaux de vote, alors je crois que c'est en Arizona, on avait des militants armés pro-Trump pour en gros vérifier que les scrutateurs font bien leur travail. Ça met quand même une certaine pression, non ?
Tout à fait. C'est vraiment là-dessus sur le port des armes. Ça c'est pareil, c'est par État que c'est décidé. Il y a certains États qui permettent le port des armes en public et d'autres que non. Certains qui le permettent en cachet ou non. Effectivement, je vois pas le sens de ça. Ça peut mettre beaucoup de pression sur les personnes qui font le dépouillement, qui tiennent les bureaux de vote, alors que la grande majorité, ils sont des volontaires de la population, avec un suivi sur leur identité et tout, pour vérifier qu'ils sont honnêtes. Mais c'est des volontaires, que ça peut être toi ou moi. Et c'est assez anormal qu'il y ait une pression pareille. Après, il y a aussi des policiers sur place pour vérifier que ça ne parte pas en vrille. Ils sont censés garder l'ordre. Donc, j'espère que ça se passe pour le mieux.
Il n'y a jamais autant de personnes, je crois, qui a voté aux États-Unis. Alors, vu de France, on voit ça un peu différemment. Est-ce que le problème, finalement, ce ne sont pas les deux candidats ? On a deux candidats. D'un côté, on a Trump qui peut sembler irrespectueux et un peu de mauvais goût. De l'autre, on a Joe Biden qui est un vieil homme politique. Je crois que ça fait plus de 50 ans qu'il fait de la politique. C'est dur de faire un choix. En plus, chacun fait ses bourdes, puisque l'un dit, comme Trump, qu'on peut soigner du Covid en avalant je ne sais pas quelle substance. L'autre, Biden, confond son fils avec sa petite fille et se rend compte que finalement, c'est pas sa petite fille qui est à côté de lui. Bref, c'est pas évident, non ?
C'est un vote qui n'est pas évident, oui et non. Les deux côtés sont assez tranchés. Je pense que s'il y a eu beaucoup de participation cette année, ça se résume en disant que pour tout le monde, si l'autre côté gagne, c'est la fin.
Ah oui,
peu importe si je suis de gauche ou de droite, si je suis démocrate ou républicain, autre ou tierce parti, si l'autre gagne, c'est la fin. C'est la fin de notre civilisation comme on le connaît, c'est la fin de la paix, c'est la fin de toutes plein de choses, de ce qui nous sécurise et nous rassure dans la vie. Et ça fait que des gens qui autrefois auraient dit « bof, que ça gagne gauche ou droite, ça gagne démocrate ou républicain, c'est pareil », cette année non, ils disent « si telle personne gagne, c'est pas bon, donc il faut que je vote ». En France, vous dites c'est le vote utile. Il y a beaucoup de monde qui sont allés faire le vote utile cette année aux États-Unis en disant « je veux juste pas que X gagne, je veux que l'autre assure ». Donc ce n'est pas autant une participation pour voter Trump ou pour voter Biden, c'est pour ne pas voter Trump ou ne pas voter Biden.
Ouais. Et quand on voit en plus, là-bas, c'est vraiment très marketing, ils ont les casquettes, nous, on a du mal à imaginer ça en France.
Oui, ça c'est quelque chose qui est arrivé depuis l'invention de la radio. À partir de la radio, c'est parti très très médiatique, et encore pire depuis la télé qui a eu beaucoup d'influence sur nos campagnes. On n'a pas la même législation en place aux États-Unis par rapport à la France, par rapport au budget qui peut être consacré et surtout les moyens d'acquisition de ce budget de campagne. Donc ça fait qu'ils ont des moyens monstrueux pour communiquer. Et aussi, la société américaine est beaucoup plus consommateur, on est beaucoup plus capitaliste, c'est un fait. Et on est très demandeur de savoir tout sur la vie ou sur la personnalité et sur la politique des candidats. Donc, on veut les voir à la télé, on veut les entendre constamment. Ouais. C'est une demande, c'est une habitude aujourd'hui. Je pense que si on passait sur un système comme en France, même par exemple en France, il me semble que vous ne pouvez pas communiquer. Les candidats ne peuvent pas communiquer tant de temps avant le vote. Mmh. Ça, c'est hallucinant aux États-Unis. Il nous faut de la communication.
Juste à la dernière minute.
Oui.
Ouais. Est-ce que tu penses que c'est la crise sanitaire qui peut faire perdre l'élection à Trump aujourd'hui?
Ce ne serait pas tout. Et c'est pas forcément la crise en soi, mais c'est l'angoisse qui accompagne la crise, à mon avis.
Ouais.
Il y a 4 ans, Trump s'est servi de cette angoisse rampante aux États-Unis, surtout parmi certaines populations, pour gagner l'élection. Et aujourd'hui, c'est une angoisse qui peut aller contre son sens, parce que il n'y a aucun candidat qui peut avoir la bonne réponse à une épidémie mondiale. Personne ne sait gérer ça, que ce soit en France ou aux États-Unis, un candidat ou un autre. Et Trump, il a le malheur d'avoir été en place pendant cette épidémie. Donc, autant on ne peut pas savoir comment Biden l'aurait géré, on sait comment l'a géré Trump. Et cette angoisse va dans son contresens, alors que ça lui avait servi il y a 4 ans.
Alors, c'est une première aussi de voir le président Trump annoncer qu'il a gagné les élections alors que le dépouillement n'est pas fini. Ou pire, hein, comme il dit, comme il est en tête dans certains États, il dit stop, on arrête de compter.
Oui. C'est étonnant même pour les États-Unis et qu'on soit, peu importe nos tendances politiques, nos convictions, ça peut être assez mal vu parce que c'est pas traditionnel. Aux États-Unis, on est plus conservateur dans nos traditions qu'en France et ça peut être mal vu qu'on soit de gauche ou de droite, d'être un peu mauvais joueur. On refuse de finir de compter des votes parce que je crains que ça sous-entend une crainte de perdre alors que Trump il le présente comme c'est plutôt mal compté. Mais en tout cas, il y a une grande importance sur la participation aux élections, sur l'expression des voteurs, des électeurs. Donc je pense que ça peut être mal vu et ça ne va pas marcher pour lui. En tout cas, ça, ce coup-là, il était prévu par de nombreuses personnes en amont en disant, bon, Trump, dès qu'il a une suspicion de perdre, il va jouer cette carte-là.
Ouais.
Donc ce n'est pas une grande surprise, mais c'est un coup médiatique qui va avoir des impacts aussi sur les supporters Trump qui ont répondu présents pour aller manifester devant des bureaux de vote.
Selon les derniers sondages et derniers dépouillements, on va dire que Biden devrait l'emporter, mais il n'y a pas de vague bleue annoncée. Est-ce que pour toi, c'est logique?
Qu'est-ce que tu entends par une vague bleue?
Une vague bleue, on avait dit que la Floride allait passer démocrate.
Oui, donc plus ou moins, on a l'impression que Biden gagne, mais il ne gagne pas de large comme on aurait pensé.
C'est ça. Ça va même être tout juste, peut-être.
Oui, moi, ça m'a pas étonnée. Quand on va aux États-Unis, on sent une présence des supporters de Trump ou juste des personnes de droite qui sont, comme j'ai dit, pas pour Biden, pour diverses raisons. Donc, ça, moi, je m'attendais à ce que Trump, il ait toujours un soutien significatif. C'est peut-être aussi parce que je viens de l'État de Texas, qui est un État plutôt de droite, mais où on regarde les résultats, Trump a gagné de moins que, historiquement, ce que les républicains ont gagné autrefois. Donc partout, on remarque une baisse de soutien pour Trump, mais en France, plus que ce qu'on aurait pu imaginer. C'est Trump, comment il peut gagner autour de vote? C'est un peu l'impression. On vote pour Trump pour ne pas voter l'alternative, c'est ça. Pourquoi ne pas avoir gagné, converti certains États comme la Floride, on en discutait. C'est aussi, les sondages en fait sont jamais très précis et depuis que Trump est entré en jeu politique, c'est d'autant plus vrai, les sondages, ils n'arrivent pas à prédire ce que arrive à faire la campagne de Trump, que ce soit par ses moyens de communication, qui sont pas toujours visibles, par exemple des communiqués en privé auprès de certains utilisateurs Facebook en spécifique, qu'on peut pas savoir qui fait si on n'est pas ciblé. C'est des choses qu'on peut pas prendre en compte dans les sondages qui font que peut-être c'est un peu plus difficile à prédire l'avenir.
Et une chose qui est importante aussi par rapport à la France, c'est que Biden a le vote populaire. Hein. Ça voudrait dire que si l'élection se passait comme en France, il serait élu, hein, parce qu'il a, je crois, plus de 3 millions de voix d'avance. Mais ça ne se passe pas comme ça aux États-Unis.
Non, c'est pas comme ça. Même si on regarde l'élection de 2016 entre Trump et Hillary Clinton, Hillary Clinton a gagné le vote populaire, donc elle avait 2,7 millions de voix de plus que Trump. Mais Trump a gagné au niveau des voix grands électeurs. Donc les grands électeurs, c'est un collège électoral. Dans l'histoire des États-Unis, c'était sur le principe que le pays est tellement grand et la population des personnes pouvant voter ne peut pas tout être informé sur les candidats, et donc ils vont voter un nom, mais derrière c'est un grand électeur qui en réalité porte cette voix et dit ok, oui, je valide le vote populaire, ou bien j'estime qu'ils n'ont pas eu les informations nécessaires, l'éducation nécessaire pour bien voter, et donc je protège cette population et je vote pour. Ça, c'est l'histoire. Aujourd'hui, ça fait que moi, ma vote au Texas va porter plus ou moins qu'une vote de Nevada ou une vote de Oklahoma.
Ouais, ouais.
C'est aujourd'hui, il me semble, ce n'est peut-être plus pratique. Et ça fait qu'on peut perdre l'élection alors qu'on a gagné même de large en termes de vote populaire.
Ouais, c'est ça. Et alors, en cas d'égalité, je crois, si on est à 269-269, là, c'est la Chambre des représentants qui décidera. Alors, ce qui est encore bizarre, c'est que apparemment, les démocrates sont plus importants, sont représentés à la Chambre des représentants, mais c'est pas, ça serait Trump qui serait élu.
Oh.
Mais oui, parce
ça,
que
j'aurais pas dit, parce que la maison effectivement est dominée par les démocrates aujourd'hui.
Oui, mais ils ont qu'un vote, ils peuvent pas, c'est un vote par État.
Ah, du coup, tu m'apprends à quelque chose.
Ah, tu vois,
moi, j'ai jamais connu ce cas. je ne l'ai pas retenu de mes cours d'économie et gouvernement politique.
Une chose aussi, c'est que l'élection pourrait se régler en justice. On le voit aujourd'hui, il y a 600 avocats par candidat. Quand on connaît le prix de l'heure d'un avocat aux États-Unis, ça va coûter cher. Je crois déjà que sur la campagne, on est à 250 millions d'euros par candidat. C'est inimaginable en France, ça.
Oui. Oui, c'est inimaginable et ça joue beaucoup sur le côté médiatique.
Mais
on se demande d'où vient cet argent souvent.
Ah oui.
Et ce n'est pas transparent aux États-Unis. Il y a eu certains candidats qui le rendent transparent alors que ce n'est pas le cas de la majorité.
Et est-ce que finalement, à un moment, ses partisans à Trump, et surtout comme Mike Pence, vont lui dire t'as perdu, il faut l'accepter. Ou non, il a plus de pouvoir que ça.
C'est-à-dire les financeurs, est-ce que
Non, pas les financeurs, son parti politique. À un moment, il va lui dire, parce qu'il va vouloir peut-être continuer tout le temps d'aller en justice, mais est-ce que son parti politique, les Républicains, vont lui dire, là, tu vois, t'as perdu encore un État, faut arrêter, quoi.
Alors oui, bien sûr, ils peuvent dire ça, ils peuvent dire le contraire, mais
c'est lui qui décide.
On a vu comment fonctionne Donald Trump depuis les 4 dernières années en tant que président, il fera ce qu'il veut. Donc, on voit déjà dans l'élection, en fait, il y a plusieurs grands noms de la partie républicaine qui ont retiré leur soutien à Trump. Je cite par exemple George Bush Jr.,
d'accord,
qui est président des années 2000, qui a dit ne pas voter Trump, et ce n'est rien d'étonnant, en fait. Aujourd'hui, depuis les années 2000, on remarque une schisme, une grande division dans la partie républicaine. On voit ce qu'on entend comme la partie républicaine historique, et puis on a aussi la partie Tea Party qui s'est installée depuis, qui est plus extrême droite que la partie républicaine de base. Et on voit que la partie se divise et qu'il y en a certaines qui ne offrent plus du tout du soutien à Trump alors qu'ils se considèrent de la même partie. Et pareil, historiquement, dans les États-Unis, ça arrive à peu près tous les 100 ans. Tous les 100 ans, on va avoir une partie politique qui s'éclate en deux, et puis une des deux qui va mourir. En fait, les Républicains, c'était la partie de Abraham Lincoln, qui était notre président qui a aboli l'esclavage. On n'imagine pas quelqu'un de droite, de républicain, comme on le voit aujourd'hui.
Ouais.
Il était de gauche pour l'époque. Mais c'est une partie qui a évolué dans les temps, qui s'est divisée et qui a eu des changements dans ce système. Aux États-Unis, on n'a que deux partis principaux. Et par contre, ça a évolué avec le temps en gardant le même nom.
D'accord. Ah ouais. Aujourd'hui.
Donc oui, les républicains, ils vont dire, mais Trump, tu racontes n'importe quoi.
Ouais.
Et d'autres vont dire, il a raison, c'était mal compté, on va aller en justice. Ça fait partie du drame de la politique américaine.
Oui, on voit que c'est assez compliqué. On espère avoir les résultats demain, je crois. Hein si tout va bien. Mais c'est pas forcément des résultats définitifs, hein, avec tout ce qui se passe au niveau justice. Ce qu'on sait, c'est que le 20 janvier, il y aura un nouveau président, soit Trump qui restera, soit Biden qui arrivera.
En théorie, oui, c'est le 20 janvier qu'on aura le nouveau président ou le renouvellement du président actuel.
Ou le renouvellement du président actuel. En tout cas, merci beaucoup, Alicia. Tu te sens plus quoi aujourd'hui, européenne ou américaine?
Si je me sens plus européenne ou américaine?
Ouais.
Ah, je sais pas. Je pense qu'en France, je suis toujours l'américaine, mais quand je vais aux États-Unis, je suis plutôt la française. C'est étonnant, hein? Ouais. Je suis un peu entre deux et nulle part.
Merci beaucoup, Alicia, d'avoir été sur Millennium et nous éclairer sur cette élection. Salut.
Au revoir.